Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine pour m'accompagner. Un gars qui vient tout simplement de serrer sa pelle, la mettre de côté pour venir nous parler et qui retournera sûrement pelleter aujourd'hui. Mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc.
Salut jeune homme.
As-tu bien aiguisé ta pelle?
Oui.
Ouais, hein, c'est une bonne petite bordée. On enregistre mercredi matin cette semaine. D'habitude, on enregistre le vendredi, mais là, vu la tempête de neige, j'ai du temps et, car je travaille de la maison aujourd'hui. On a décidé d'enregistrer mercredi et, oh mon Dieu, quand j'ai sorti ce matin, fallait être en forme et décidé parce que c'est pas jojo, mettons.
Bon, en forme, on va se calmer, là. Je suis pas vraiment en forme. J'étais bien décidé, mais je suis pas vraiment en forme. Je suis allé pelleter pareil, là.
Ouais, on n'a pas tellement le choix, mais c'est ça. Il y en a une bonne épaisseur pour ceux qui seraient pas nécessairement du Québec, parce que je sais qu'on a quelques auditeurs en France. On a eu environ une quarantaine de centimètres de neige, là, entre 20 et 40 centimètres de neige un peu partout au Québec, même en Ontario, qui est un petit peu plus loin, ils ont eu une bonne bordée de neige, un peu moins que nous, mais quand même pas mal. Donc, on est enseveli ce matin. C'est le fun de voir des photos de certaines personnes de mes amis Facebook où il y a de la neige jusque dans leurs fenêtres. Et là, je parle pas des fenêtres de sous-sol, là. Donc,
Non, écoute, c'est fou. Puis le problème, en plus, c'est qu'il va y avoir des vents de 40 et 80 km/h selon les régions.
Oui, donc tu vas pelleter, puis là, la neige va revenir tout simplement. C'est comme la belle-mère qui veut pas partir quand tu dis « Bye, là, bonne fin de semaine, on se reverra la semaine prochaine », puis là, elle revient, puis là, elle revient, puis là, elle revient. C'est à peu près ça, là. C'est ça la neige cette semaine. Donc, au Québec, c'est le fun. Mais bon.
Oui,
j'espère que les gens ont été prudents parce que par le temps, vous allez entendre l'émission, ça va être derrière nous.
Mais, écoute, moi, je devais aller à Toronto.
Oui, pour le salon de l'auto de Toronto. Ouais.
Écoute, je devais partir ce matin. Alors, pour d'évidentes raisons, j'ai décidé de ne pas y aller.
Ouais.
Je regrette un peu parce que, évidemment, j'aime toujours les salons.
Oui.
Mais. En même temps, j'aime mieux pas me casser la gueule.
Ouais, j'imagine.
Puis c'est vraiment pas beau, là. C'est vraiment, là, il y a des sections où... mon fils est étudiant à l'université et c'est la première fois en je sais pas combien d'années que l'université est fermée.
Ouais, mon neveu aussi est à l'université. Puis normalement, là, c'est advienne que pourra. Rends-toi comme tu peux, mais rends-toi. Mais,
c'est ça.
Mais aujourd'hui, les universités ont fermé. Même, ils ont annoncé... notre commission scolaire à nous, c'était hier qu'ils ont annoncé qu'ils fermaient les écoles. Ils ont même pas attendu que ça commence.
Ouais, c'est un peu bizarre, ben.
Ouais, mais quand, au moins, t'sais, c'est quand même pas évident pour les parents de se réveiller le matin puis de dire « OK, est-ce que ou est-ce que pas? » T'sais? Parce que c'est pas tout le monde qui a des enfants assez vieux pour être capable de rester seul à la maison. Il faut se trouver une gardienne comme à dernière seconde. C'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours les grands-parents qui peuvent le faire ou il n'y a pas toujours quelqu'un qui peut le faire. Donc, au moins savoir le soir d'avant, ça te permet d'avoir un peu de temps de planification de ta journée du lendemain. Mais bon, nous, ça a été comme ça. Je ne sais pas si ça a été comme ça partout, mais je sais qu'il y a beaucoup de commissions scolaires que hier déjà, ils ont décidé que les écoles étaient fermées. Et mon fils était très heureux ce matin.
J'imagine.
Même hier soir.
J'imagine, effectivement. Ce qui va d'ailleurs nous amener à un des sujets dont je voulais te parler ce matin.
Ben oui, tu veux parler de pneus?
Oui, mais avant ça, je vais te parler d'autres choses parce que c'est un texte que j'ai vu cette semaine dans Le Devoir qui m'ont un petit peu fait sourciller.
Okay.
Où on nous dit « Les changements climatiques affectent la conduite automobile.
Okay. »
Je suis obligé de te dire que je trouve que les changements climatiques ont le dos large un peu. Entre toi et moi, c'est vrai, là, je nie pas qu'il y a des changements climatiques, c'est pas ça l'idée du tout. C'est que des tempêtes de neige, à ma connaissance, il y en avait quand je suis venu au monde, puis il y en a encore aujourd'hui.
Puis il y en avait avant, puis il va probablement en avoir encore pour
plus tard.
Ouais.
Tu sais, ben, même si on nous dit que dans je sais pas combien d'années, on va avoir la température de Philadelphie, là, en autant qu'ils gardent le Flyers, moi, ça me dérange pas. Mais
j'aimerais autant avoir la température de la Floride, tant qu'à faire. Là, on peut-tu sauter par-dessus à Pennsylvanie puis amener à Floride du Sud?
Ouais, mais sérieusement, j'ai trouvé ça un peu exagéré de vouloir faire porter au changement climatique le fait qu'il y a 30% plus d'accidents en hiver, le fait qu'il y a eu 106 carambolages en 6 ans sur les autoroutes du Québec. Le problème, là, je m'excuse, pas le changement climatique, c'est à 14 pouces du volant.
Ouais, c'est les gens qui n'adaptent pas leur conduite.
C'est incroyable. Et moi, je pense qu'on a un problème chez nous en matière de formation de conduite.
Oui.
On ne parle pas de ça. On ne parle jamais de conduite hivernale ou très peu. Ça ne fait pas partie des mandats qu'on se donne.
Pourtant,
on est vraiment... Ben, et tu regardes en Scandinavie, dans certains pays, tu es obligé de suivre un cours de 6 heures de conduite hivernale avant d'avoir ton permis.
Ouais, ouais.
Chez nous, on n'a pas ça. Alors ça me titille un peu. et de vouloir faire porter ça encore une fois à d'autres. Et ça, c'est le bout qui me dérange. Parce que pourquoi? Suite au carambolage qu'il y a eu la semaine passée, là, on s'est mis à dire, ben là, il faudrait vraiment que le ministère des Transports mette des arbres le long de la route pour empêcher le vent de passer. Comme ça va limiter la poudrerie. Bon, écoute, personne n'est contre la vertu, là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, la vertu, c'est une bonne affaire. Mm-hmm. Mais en même temps, si tu sais conduire un peu, puis si t'es brillant, puis si tu sors pas quand, dans des conditions dangereuses... Moi, je suis pas allé à Toronto ce matin. J'aurais dû y aller, j'avais des contrats pour y aller, j'avais des obligations là-bas. J'ai reporté ça tout simplement parce que j'ai envie de souper avec... de souper en vie, tu comprends?
Ouais.
Alors, puis, et je pense que mon expérience de conduite me permet de croire que je suis capable de maîtriser un véhicule dans des conditions difficiles. Alors, je sais qu'il va... qui existe, qui a été fondé en janvier, entre autres par Bertrand Godin, un centre de recherche sur la sécurité routière. Mm-hmm. Ils vont créer donc un centre où ils veulent faire vraiment des analyses des conditions de sécurité routière. Et c'est fait en collaboration, entre autres, avec un gars qui s'appelle Régent Blais, qui est le directeur général de Conduit Pro, qui est une association d'écoles de conduite, mais qui est aussi un formateur en conduite de véhicules lourds.
Okay.
Et Régent, c'est un gars pour qui la sécurité routière, c'est important. Et ils vont regarder effectivement la nature même de la formation et ils veulent en arriver avec des conclusions. Mais je pense que on a là une belle conclusion. La conduite hivernale, il faut en parler, il faut faire attention, il faut l'apprendre. Moi, j'ai envoyé mon fils suivre un cours de 3 heures avec ma femme, sur un cours de 3 heures sur le contrôle du dérapage. Aujourd'hui, mon fils m'en remercie. Il me dit, papa, quand je vais en hiver, je suis pas moins vigilant, mais au moins je sais comment réagir s'il y a un problème. Donc vraiment, c'est le genre d'affaire. Fait arrêtons de dire, ah, les changements climatiques. Non, non. Changements climatiques, oui, ils vont affecter toutes sortes d'affaires, puis c'est tout à fait vrai, ils existent et ils vont arriver, il y aura toutes sortes de considérations. Mais pour le moment, le problème, il est à un autre niveau. C'est juste qu'on est sans dessin quand on est au volant. Et effectivement, on a pourtant des voitures mieux équipées que jamais, hein, tous les systèmes électroniques embarqués qui nous aident.
Ouais.
Mais il faut prendre nos responsabilités. Donc, apprendre à conduire, et tu l'as mentionné, le deuxième sujet dont je voulais te parler, ben, ce sont les pneus d'hiver.
Ouais. Mais avant, là, on est beaucoup sur la route, toi et moi. Là. Moi, je fais une centaine de kilomètres par jour pour aller au travail. Puis c'est aberrant le nombre d'imbéciles sur la route. Là. Le nombre de personnes là, qui vont... Tu roules à 120 sa voie de gauche, là, 110, 115 sa voie de gauche, là, puis ta sortie, là, c'est la prochaine. Ils vont couper à dernière seconde, puis ils vont couper deux voies plus... Ils vont couper une voie plus la sortie pour sortir là, plus vite que tout le monde. Des gens qui roulent sur les voies réservées pour les autobus parce que tu te penses plus important que les autres, t'es plus pressé que les autres. En passant, là, la police de Saint-Laurent, là, Ville-Saint-Laurent, là, vous devriez peut-être vous installer sur le bord d'Henri Bourassa sur la voie réservée pour les autobus parce qu'il y a une maudite gang d'imbéciles qui apprennent en pensant qu'eux autres, ils ont le droit, malgré que les pancartes sont très, 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 très bien affichées comme quoi que c'est une voie réservée autobus-taxi. Là. Fait que peut-être une coupe d'étiquettes de temps en temps, ça remettrait peut-être les gens à leur place. Là. Mais il y a clairement beaucoup trop d'imbéciles sur la route, puis malheureusement, il n'y a pas assez de policiers pour donner des contraventions à tous ces imbéciles-là.
Mais effectivement.
Soyez pas arrogants sur la route. La route ne vous appartient pas. Fait que si vous êtes un de ces imbéciles-là, ben, tu sais, levez le pied un peu. Ou ben, tu sais, franchement, là, si vous êtes vraiment un de ces imbéciles-là, théoriquement, j'aimerais autant que vous écoutiez pas l'émission parce que vous êtes pas le public que je cherche à atteindre. Franchement, là, je le pense vraiment, là. Je sais que je me ferai pas des amis, mais si vous êtes du genre à zigzaguer pour dépasser tout le monde sur l'autoroute, puis même dans des conditions un peu périlleuses comme ce matin, c'est pas grave, j'ai un 4x4, je suis capable de rouler à 120 km/h, pareil, c'est à voie de gauche, puis couper tout le monde parce que vous pensez meilleur que les autres, là, on se reverra dans le champ. Mais regarde, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde qui se prennent, qui pensent que leur capacité de conduite est vraiment meilleure qu'elle l'est vraiment, puis un jour, ben, ils vont se ramasser dans le champ ou dans un arbre, puis ils repenseront peut-être à ce qu'ils ont fait, là, mais bon.
Et c'est pour ça que je te dis que si on avait juste une formation d'une couple d'heures sur la conduite hivernale, obligatoire pour tout le monde, ça réglerait bien des problèmes.
Ça prend pas grand-chose. On est allé faire le Camp Forve, là, quelques années, puis juste cette petite journée-là m'a appris un peu, c'est sûr que là, on avait des Porsche, puis on avait des voitures avec des pneus à crampons, mais quand même, ça t'apprend un peu comment maîtriser une voiture. Faut vraiment savoir, puis des fois, faire du dérapage contrôlé, c'est-à-dire faire déraper volontairement la voiture quand c'est sécuritaire, là, pas sur une voie voies à double sens quand il y a des voitures qui circulent. Mais dans un stationnement, dans un vide d'un centre d'achat, à un moment donné, faites-la déraper tranquillement, puis ramenez-la, apprenez comment ramener la voiture. Puis oui. Ou aller suivre un cours, ça coûte pas une fortune, puis ça pourrait vous sauver la vie. Surtout pour les jeunes conducteurs, je pense que ça devrait être obligatoire au Québec. Mais bon, on n'est pas rendu là, ça a l'air. Mais oui, tu veux bien parler de pneus, j'ai fini de péter ma bulle ce matin, ou péter la bulle de tout le monde. Montez de
l'air. J'ai fait la même chose, fait que regarde, je te pardonne pour cette fois.
C'est bon.
Oui, je voulais parler de pneus parce que cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller sur le circuit de Saint-Mère pour aller essayer des pneus d'hiver Nokian.
Okay.
On connaît bien la compagnie Nokian parce que c'est des pneus qui sont considérés comme étant des pneus de qualité. C'est vrai que c'est des pneus qui sont 5 à 10% plus chers que les autres en général.
Ouais.
Mais c'est des pneus qui, honnêtement, fournissent habituellement une bonne qualité, là, un bon travail. Bon, il y a des petits défauts. Moi, actuellement, j'ai les R2 sur la voiture de mon fils. Je t'avoue qu'ils font très bien le travail dans l'eau. Sur la glace, c'est moins évident. Et surtout, ils sont en train de s'user très rapidement. Ça me dérange un peu. Bon.
Okay, ouais.
Mais ça, j'en ai parlé aux gens de Nokian qui m'ont dit « c'est pas normal, il faudrait vérifier ce qu'il y a ». Mais évidemment, c'est jamais normal, hein, ces affaires-là. Mais on verra quand même quel est l'impact. Sauf que là, c'était pas ça. Là, on était là pour essayer deux pneus. Les R3, qui est en fait la nouvelle génération, et on nous dit que la gomme est meilleure, donc ils vont résister plus longtemps. Et les Acapelita 9, qui sont des pneus bien connus, qu'on a lancés l'année dernière, mais toute la série AK, c'est des pneus qui marchent depuis plusieurs années, qui sont considérés parmi les meilleurs dans leur catégorie, et qui sont des pneus à clous.
Okay.
L'idée, c'est qu'on nous a fait faire des exercices à la fois sur la neige, sur la route pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ou sur la glace, avec les deux types de pneus dans les mêmes véhicules. Alors, par exemple, on avait une Chevrolet Cruze, pneus à clous, pneus sans clous. On avait ce qu'on appelle un skid pad, là, un rond où on dérapait volontairement, et un espèce de petit circuit slalom. Et il fallait essayer de le faire. On partait avec une des voitures, on la stationnait, on partait avec l'autre pour voir quelle était la différence de comportement. Ça, c'était sur la glace, là. Purement. Après ça, on le fait dans un mélange de neige et glace avec les mêmes deux pneus. Donc, évidemment, pneus à clous, pneus à crampons seuls, sans clous. Honnêtement, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné, d'une part, les pneus mordent très bien, là, c'est assez clair. Mais j'ai été impressionné, malgré tout, de la qualité des pneus sans clous.
Okay.
Écoute, évidemment, sur glace, là, sur glace peu, puis Dieu sait que c'est de la belle glace. Là. OK, on aurait pu patiner là, puis ça aurait été tout à fait correct.
Ouais.
Évidemment, bon, les pneus sans clous étaient désavantagés. Là. Les R3 font un bon travail, et sur la neige, vraiment, ils étaient extrêmement efficaces. Mais aussitôt qu'il y avait un changement vraiment de surface un peu trop évident, là, quand on arrivait vraiment sur une grosse partie de glace, ben là, on sentait qu'il y avait une différence. Malgré tout, la rigidité latérale faisait qu'on était capable de les maîtriser quand même. Bien sûr, en apprenant justement ce qu'on disait, à contrôler nos dérapages.
Mm-hmm.
Nous, on était accompagnés de pilotes chevronnés, là, Simon Dionvien, Drew Ranger était là, Claude Bourbonnais, bon, on avait des gens qui savent conduire un peu, là, Valérie Limoges.
Donc, un peu.
Juste un peu. Ils ont déjà vu un auto une fois ou deux avant. Là.
Ouais, c'est ça.
Donc, ces gens-là nous donnaient des conseils sur comment ramener, bon, chose qu'on connaissait, mais quand même. Et honnêtement, les R3 m'ont beaucoup impressionné. J'ai été favorablement surpris. Bien sûr, les AK9 à clous, ça mord dans la glace, ça bouge pas de là. Écoute, on faisait le slalom à 40-45 km/h, puis sur la glace vive, puis l'auto bougeait pas là. On était parfaitement capable de maîtriser nos affaires, puis il fallait même travailler fort pour réussir à la faire décrocher.
Ouais.
Donc, évidemment... Mais par contre, sur surface enneigée, il faisait le travail, mais moins. Ce qui est particulier du AK9, cependant, c'est qu'il y a deux types de clous. Alors, à l'extérieur, tu as un type de clou, à l'intérieur, tu as un autre type de clou, ce qui te permet justement de multiplier les usages sur différentes surfaces. Le gros bémol des pneus à clous, ben, je pense que pas besoin de le dire, là, c'est le bruit. Moi, ça m'énerve d'entendre à ce point.
Ouais.
Mais comme je suis dans une zone totalement urbaine, ben, j'ai pas vraiment besoin de ces pneus-là. Mais honnêtement, j'ai été surpris parce que j'ai eu l'occasion de les tester, qu'on appelle back-à-back, là, vraiment un derrière l'autre. Et j'ai été étonné de la qualité de ces pneus-là. Oui, bien sûr, les pneus à clous sont aussi beaucoup plus rigides. Les pneus à R3 ont quand même fait un travail impeccable. Honnêtement, je ne sais pas s'ils voulaient nous vendre des pneus à clous et leur qualité. Ils ont bien fait le travail, mais j'ai été surtout impressionné des R3. Comme je dis, moi, j'ai les R2 chez nous, que j'aimais beaucoup sur l'eau, entre autres. Donc, on nous dit qu'ils ont conservé cette qualité-là. Mais honnêtement, dans la neige et sur la glace, ils m'ont surpris. Ce qui ne veut pas dire, cependant, qu'il ne fallait pas apprendre à maîtriser le véhicule. Mais honnêtement, ils font vraiment un bon boulot.
Ouais, le seul problème aussi avec les pneus à clous, c'est que si vous êtes urbain, beaucoup, voire tous les stationnements intérieurs refusent les voitures avec les pneus à clous.
Ouais, mais il y a maintenant, pas les Aka, mais il y a maintenant des pneus de nature qu'on appelle hybrides,
Ouais.
où sur une surface comme de l'asphalte, les clous ont tendance à renfoncer davantage, c'est plus permis. Mais tu as raison, il y a encore beaucoup, beaucoup d'endroits où ce n'est pas permis. Et il faut faire attention aussi, hein, si vous êtes du genre paresseux, que vous gardez vos pneus d'hiver un peu plus longtemps que ne le veut la bonne conscience, les règles ne sont pas les mêmes pour les pneus à clous. Vous ne pourriez pas garder des pneus à clous tout l'été, par exemple.
Non, 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 c'est
C'est
ça.
interdit. Alors
Ouais.
que des pneus d'hiver, tu as le droit.
Elle prendrait des pneus comme James Bond. Je me rappelle pas c'est dans quel film. Là, il appuyait sur un bouton puis les crampons sortaient des pneus. Là. Ça serait bien, ça, me semble.
T'as trop pelleté, toi. Je
Ouais.
pense que t'as vraiment trop
Ou j'ai
pelleté.
trop regardé de films, peut-être. Mais bon.
Aussi.
Donc, c'est bon, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir tout de suite avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'un petit véhicule, le Lincoln Nautilus.
Ouais, qui est en fait le Lincoln MKX.
Ouais, on est revenu avec des noms. Ce que j'aime bien, parce qu'à un moment donné, tu sais, juste des lettres, ça, je sais pas, ça me parle moins.
Non, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord pour dire que c'est effectivement pas le genre de véhicule que qu'on trouve très. Le nom, le MKX, MKC, MKZ, MK, tout ce que tu voudras,
Ouais.
il n'y a pas d'attachement, je trouve, à cet égard-là. Ça me dérange un peu, tu sais.
Ouais.
Mais bon.
C'est une mode. Fait que, mais on dirait que la mode est passée. Les prochains, c'est Acura. Hein? RDX, RLX, peu importe. Là, à un moment donné, revenez avec des noms, ça serait intéressant.
Ouais, je retiens pas ton souffle, par exemple, là,
Non,
je te
non.
dirais.
Non, mais on sait jamais.
En tout cas, tout ça pour dire que le petit véhicule est vraiment intéressant, le Nautilus. Moi, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. Honnêtement, oui, bon, tu as deux choix. Tu as un moteur 4 cylindres turbo ou un V6 de 335 chevaux. Donc, tu as quand même pas mal de puissance qui peut être disponible selon ce que tu choisis. Boîte automatique 8 rapports qui est efficace. Bon, tu sais, là, je ne veux pas me lancer dans les détails mécaniques là, parce que c'est pas tellement pertinent, parce que c'est pas pour ça que tu achètes un Lincoln.
Non.
D'abord, tu l'achètes pour le nouveau look. Hein, la nouvelle grille de Lincoln est vraiment super belle.
Oui.
Ça lui donne vraiment une allure assez particulière.
Ouais, luxueux, sportif un peu, ça, ouais, c'est joli.
Exactement. Donc ça, je pense que c'est vraiment la clé de ce qui va attirer les gens. Autre élément, ben c'est évidemment le luxe et le confort. On a vraiment bien réussi. Écoute, quand j'ai ramené la voiture, ma femme m'a dit, tu vois, celui-là, je vais le regretter.
OK. Ouais, c'est bien.
Ouais, ben c'est parce que tu sais, Linda a des considérations qui sont un peu différentes des miennes. Elle a des plus grandes jambes. Elle est plus élancée un peu que je ne le suis. Donc le confort des sièges pour elle, c'est hyper important. L'ergonomie, c'est aussi très important. Et donc, elle a retrouvé tout ça là-dedans. Bien sûr, il faut dire aussi que les sièges massants ne sont pas étrangers à son appréciation particulière du véhicule.
Oui, ben c'est sûr ça.
Parce qu'il y a des sièges chauffants, ventilés et bien sûr massants. Donc, c'est pas négligeable. Mais sincèrement, c'est une voiture qui m'a beaucoup étonné par la douceur de roulement, par la quantité d'accessoires qui sont disponibles à l'intérieur. Tu sais, je suis sorti de là très satisfait de mon essai. Plus que ce à quoi je m'attendais. Parce que je suis un peu comme tout le monde, resté avec l'image que Lincoln, ben, c'est des véhicules que l'on conduit qui sont davantage utilitaires que plaisants, qu'on conduit un peu parce que, bon, on veut pas se payer une Mercedes ou une Audi, fait que on va aller chez Lincoln. Alors que, honnêtement, j'ai plutôt apprécié le Nautilus. J'ai plutôt aimé son côté plus moderne au niveau du design intérieur. J'ai bien aimé l'ergonomie de ses commandes, du système multimédia, la qualité du système de son qui est absolument incroyable. J'ai aimé justement les sièges avec leurs multiples réglages qui m'ont permis de trouver la position de conduite qui faisait bien mon affaire. C'est sûr que c'est pas ultra stimulant en conduite. Ça demeure quand même un multisegment de luxe dont la priorité numéro un, c'est pas le côté sportif, c'est vraiment le côté confortable. Donc, t'as pas là-dedans le gros oomph auquel tu pourrais t'attendre. mais c'est un véhicule qui est beaucoup plus connaître, qui vraiment a fait un travail vraiment agréable. C'est pas parfait, là. Il n'y a rien de parfait à part toi puis moi, on le sait bien, mais...
Ouais, plus toi peut-être, là. Je me considère pas parfait, même loin de là, mais bon. Okay.
Non, mais j'essayais d'être fin pour une fois.
Ok, je vais m'en prendre le compliment d'abord.
C'est ça. C'est sûr qu'il y a des affaires qui m'agacent un peu. La console centrale, entre autres, avec les, il n'y a plus de levier de transmission, là, c'est des boutons. Mm-hmm. Ça me dérange. Ça, moi, c'est quelque chose auquel je ne m'habitue pas. Tu sais, comme disait Jim Kenzie, un journaliste ontarien, ça a pris 100 ans avant qu'on en arrive à créer une transmission qui est d'allure, puis là, on revient à des boutons. En tout cas, c'est pas... Moi, je suis pas impressionné de ça. Mais dans l'ensemble, pour le reste, c'est un véhicule, honnêtement, que j'ai beaucoup aimé, qui s'est avéré, je te l'ai dit, plus à la hauteur que ce à quoi je m'attendais vraiment. C'est probablement parce que j'étais mal... j'étais parti avec des mauvaises intentions, je te dirais, là, avec des préjugés négatifs.
Ouais.
Mais c'est quand même un véhicule qui fait bien le travail, mais qui, bien entendu, écoute, on parle quand même de 50 000 $ là, incluant transport, 50 000 $ de prix de base, ça commence à être un peu élevé, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, je pense, a sa place au sein de ce qu'on pourrait qualifier de véhicule de luxe.
Non, on parle de 50 000 $ de prix de base, donc le tien était plus que ça.
Oui.
OK, parce que aussitôt qu'on parle siège massant, là, on parle de...
Oui, non. Puis, je veux dire, c'est de 50 000 à 58 000 le prix de base auquel, évidemment, tu ajoutes toutes les options là, que tu peux t'imaginer. Et en plus, par contre, il y a des affaires qui sont quand même intéressantes. C'est un véhicule qui est rempli de technologies, notamment le copilote 360, là, qui est le système global de sécurité qui est mis de l'avant par Ford et Lincoln. Là, donc, l'aide au maintien en voie et tout ça, qui sont pas trop intrusifs, qui font vraiment bien le travail. Non, honnêtement, je te dis, j'ai pas trouvé de gros défauts à ce véhicule-là.
OK. C'est bien, c'est intéressant. Mais oui, ce qui était un peu plate de Lincoln, c'était leur design avant, l'espèce de grille en forme de comme dent de baleine, je sais pas trop, c'était vraiment bizarre là, c'était pas beau, mais là depuis qu'ils ont refait avec la Continental, puis là tranquillement ils refont leur gamme là, les véhicules sont jolis au moins. Donc déjà là en partant, si tu peux avoir un coup de cœur pour un véhicule, disons, t'as plus de chances de l'acheter que si tu regardes ça, tu dis ich, pas sûr, tu sais. Mais à date, tous les Lincoln que j'ai conduits ont été confortables. Puis moi aussi, ma femme me parle toujours de la Continental avec les sièges massants qu'elle a eu à un moment donné. Là. C'est comme, ça a été comme la voiture qui l'a marqué. Donc, je peux comprendre ta femme aussi d'avoir aimé ce véhicule-là. Donc, moi, j'étais au volant du Jeep Wrangler Sahara Unlimited. Un véhicule que j'apprécie toujours beaucoup. Un véhicule qui, ma foi, peut en donner beaucoup plus qu'on en demande en tant que journaliste. Ben ok, je sais qu'il y a des gens qui vont prendre ça puis qui vont l'amener hors route puis qui vont faire vraiment des tests plus poussés là, mais moi je vois ça, moi chaque véhicule que j'ai, je les utilise de la même manière, donc pour aller travailler, pour revenir, tu sais, aller faire les commissions, ces choses-là. Mais c'est un véhicule qui est vraiment capable d'en donner beaucoup plus que ce qu'on va y en demander. Donc, c'est un beau véhicule, c'est un bon véhicule. Côté confort, c'est sûr, certain que c'est pas une berline là. Donc faut s'attendre à se faire brosser un peu plus que dans une voiture régulière. Vous allez sentir un peu plus les bosses. Vous allez sentir que c'est un peu flottant quand on est sur la route. Là.
Ça s'est beaucoup amélioré par rapport à l'ancienne génération.
Oui, par exemple, il y a une grosse amélioration, mais c'est encore présent. Si vous roulez sur l'autoroute, là, à vitesse d'autoroute, puis la route n'est pas parfaite, vous allez sentir un peu comme quoi ça sautille un peu. Mais oui, c'est beaucoup mieux que ça l'était avant. Mais côté design, je veux dire, ça a l'air agressif. C'est un beau véhicule. On a gardé encore le design classique avec les phares ronds, la grille. On le sait qu'est-ce que c'est aussitôt qu'on le voit arriver. Puis c'est un véhicule dans lequel vous allez vous sentir vraiment confortable. Puis c'est un véhicule que vous avez aussi le contrôle sur le mode de traction que vous voulez avoir. Vous pouvez le forcer en deux roues motrices. Vous pouvez le mettre en quatre roues motrices automatisé. Donc, j'imagine qu'il va lui-même gérer s'il envoie de la puissance aux roues arrière ou aux roues avant. Puis, vous pouvez le forcer aussi en quatre roues motrices. Puis, c'est vraiment toujours quatre roues motrices. Donc, vous avez vraiment vos modes. Vous pouvez mettre en quatre pour rouler rapidement, en quatre pour faire du sentier.
Puis, c'est important de préciser que c'est un vrai quatre roues motrices.
Un vrai de vrai, là. C'est pas... parce que vous achetez un VUS, là, vous allez dire « Ah, moi, j'ai un véhicule 4 roues motrices. » Non. Vous avez une traction avant qui est capable d'envoyer de la puissance aux roues arrière au besoin. Mais oui. un VUS, là, n'importe quel VUS, là, Hyundai, Kia, peu importe, à part Subaru, c'est du traction avant avec propulsion arrière au besoin. Donc, la voiture va envoyer de la puissance aux roues.
Mais même Subaru, mon ami.
Même Subaru, je pense que c'était toujours raison. Okay.
En fait, il y a toujours cette position-là, mais il transfère le couple au besoin.
Oui, oui, c'est ça.
Ton Wrangler, lui, va diviser en quatre. Là.
C'est ça. Vraiment, de la puissance égale aux quatre roues, puis on s'en va là. Fait, c'est un véhicule avec lequel, théoriquement, vous ne devriez pas rester pris dans la neige ou quelque chose comme ça. C'est sûr, si c'est trop profond, puis les roues touchent plus à terre, c'est
bon,
fini.
Ben, je peux dire que je l'ai amené dans des conditions de fou, moi, là.
Non, oui.
Puis, faut vouloir pour rester pris, là.
C'est capable. Donc, est-ce que c'est un véhicule pour tout le monde? Je penserais pas. C'est un véhicule vraiment quand même niche.
J'en veux.
Mais
moi, j'en veux. Hein.
Oui, je sais. Ma femme aussi. J'ai envoyé quand je suis allé chercher, j'ai pris une photo, j'ai envoyé. Puis j'ai juste eu un petit bonhomme avec la bave sur le bord de la bouche qui m'a retourné. Je comprends pas. Fait que c'est vraiment son véhicule. C'est drôle, ma conjointe, elle aime vraiment deux véhicules. Puis c'est deux véhicules chez FCA. Elle aime beaucoup le Dodge Charger, puis elle aime beaucoup le Jeep.
Ah, mon
le
Dieu,
Jeep c'est Wrangler. C'est comme deux véhicules qu'elle a toujours beaucoup aimé. T'sais, elle aime beaucoup le Challenger aussi, un peu comme toi. Donc, tu sais, on dirait qu'elle a une petite affinité pour les véhicules Dodge, là.
Mais, mon Dieu.
C'est bien. Tu sais, pourtant, j'en essaye beaucoup des véhicules, mais elle, le Jeep Wrangler, ça a toujours été comme sa voiture fétiche, là. Elle aime ça. Elle m'a même dit, est-ce qu'on peut le garder? Je suis pas sûr que la personne de chez Chrysler, j'y dirais, tu sais, je vais t'échanger mon vieil Escape pour ça, puis je te chargerai pas pour. J'en change pour change, puis tu sais, je te demanderai même pas d'argent en retour. Je pense pas qu'il va dire oui. Mais,
non.
Mais c'est un genre de véhicule qu'elle aimerait beaucoup. Il y a différentes gammes de prix. Vous pouvez l'avoir en différentes configurations. Il y a les modèles 2 portes, les modèles 4 portes, plusieurs déclinaisons aussi. Là. Le véhicule que j'avais était 59 065 $, mais bon, c'est la version la plus haut de gamme. Là. Sahara, ouais. Je pense que c'est la version la plus haut de gamme avec le Wrangler, le Unlimited.
Non, t'as le Rubicon.
Le Rubicon, c'est vrai, t'as le Rubicon dessus. Mais Unlimited, c'est la version 4 portes. Le
ouais.
Pas Unlimited, c'est la version 2 portes. Mais ça. Moi, j'avais plein d'options. C'est volant chauffant, siège chauffant, il y a système de son, puis en tout cas, ils ont.
Ouais, mais à ce temps, t'as toutes sortes d'affaires. Tu sais, juste les modules. Là, tu l'as en hiver, mais en été, tu peux essayer tous les modèles de toit, comment déplacer les toits, puis tout.
Oui, oui. Oui, ma femme a regardé le toit, elle dit, hey, elle dit le toit s'enlève-tu? J'ai dit, oui, ma chère, le toit, les portes.
Le toit, les portes, puis le toit, maintenant, tu peux l'enlever juste les côtés en laissant le haut. T'as même une version rétractable électrique maintenant.
Okay.
C'est vraiment, là, ils ont vraiment complètement modifié cette portion-là.
Ouais, mais c'est vraiment un véhicule que j'adore aussi. Là.
Ouais, je suis d'accord.
C'est juste incroyable comme véhicule, puis vraiment capable.
Ouais.
Si vous voulez quelque chose qui est capable d'aller n'importe où, faire du hors-route, faire de la route, puis c'est vraiment le véhicule complet. Puis j'ai fini environ 12 litres au 100 km, 12,5 je pense, là, au 100 km de consommation, mais avec la température puis la neige que j'ai eue, puis tout ça, le véhicule
c'est
a pas
très,
eu...
C'est très, très, très raisonnable.
A pas eu de pause. C'est un V6, il est disponible avec un 4 cylindres turbo, mais moi j'avais le V6 3,6 litres avec la transmission automatique à 8 rapports, et sa couleur s'appelle rouge pétard.
C'est beau ça.
Oui, j'ai trouvé ça cute quand j'ai vu rouge pétard. Oui, c'est effectivement, c'est un rouge pétant, donc rouge pétard, ça y va. Donc, c'est ça. Si c'est le genre de véhicule que vous aimez, moi j'adore, là, mais puis Marc aussi, ma conjointe aussi, là, c'est vraiment, vraiment...
C'est dur à pas aimer. La question, c'est, est-ce qu'on est outillé pour s'en servir tous les jours? C'est un autre débat.
Ben, c'est ça. Est-ce que c'est ce que vous avez besoin? Parce que comme j'ai dit, c'est pas le confort d'une berline. Donc, est-ce que c'est un véhicule confortable pour faire beaucoup de kilométrage à tous les jours, c'est vous qui allez décider. Là. Mais pour le reste, si vous allez faire du camping, vous voulez tirer une petite roulotte, peu importe, quelque chose de petit, là, une tente roulotte, ou vous voulez aller, c'est un véhicule parfait pour ça. Là. Ça peut remplacer un VUS, mettons. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
Ben, mon blog, marcbouchard.ca, ma page Facebook, c'est le meilleur endroit, Marc Bouchard, bien sûr. Twitter, Marc souligné Bouchard, Instagram, Bouchard souligné Marc. Et bien sûr, info à saroulradio.com, l'adresse courriel que l'on partage tous les deux, mon cher.
Oui, pour moi, c'est sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormeaux, Instagram, Desormeaux, Luc. pouvez nous écouter à travers iTunes, Google Play, Spotify, nous télécharger directement à partir de saroulradio.com ou nous écouter sur les internets sur sportradio.ca et Radio Média Plus. Donc, Marc, merci encore d'avoir fait cette émission cette semaine. Sois prudent si tu dois sortir. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission. Bye tout le monde.
Bye bye, bonne semaine.